Donc, la première question, que faisiez-vous comme travail et que, enfin, que faites-vous comme travail, puisque vous travaillez toujours?
Je suis professeur de sciences physiques en collège. J'ai des élèves donc de 5e, 4e et 3e. Et au-delà, je suis prof formateur. Donc il m'arrive d'avoir des élèves un peu plus âgés, c'est-à-dire mes collègues profs.
Donc, prof formateur à l'UFM.
Non, dans le cadre de la formation continue.
Donc, Greta, ou...
C'est le cas de l'UFM et la partie UFM consacrée à la formation continue des enseignants.
Et alors, vous enseignez physique uniquement, non?
Physique-chimie uniquement.
Physique, chimie, et l'évolution de l'enseignement, de votre travail depuis 69,
Oula!
date à laquelle vous aviez été interrogé.
Vous avez 8 jours pour que je vous réponde?
J'ai une petite idée, mais bon.
Bon, alors si on essaye de faire un résumé très brutal, quand j'ai commencé à enseigner, ça ne s'appelait pas la physique-chimie en collège, mais la technologie, plutôt l'initiation à la technologie, mais de fait le contenu était en grande partie des sciences physiques. On travaillait avec rien, c'est-à-dire 3 bouts de ficelle et beaucoup de bonne volonté, à tel point qu'à l'époque, mon livre préféré pour préparer mes cours, c'était un bouquin de l'UNESCO qui s'appelle Le manuel pour l'enseignement des sciences en pays sous-développés. Et puis petit à petit, on a pu construire un enseignement des sciences physiques qui a été officialisé plus tard, puisqu'il y a eu séparation entre la technologie et puis les sciences physiques. Les sciences physiques ont été enseignées d'abord en quatrième, en troisième, puis ensuite de la sixième à la troisième. Il y a eu ensuite suppression en sixième et cinquième, puis remise en cinquième, donc beaucoup de bouleversements successifs, beaucoup de changements de programme aussi, qui nous ont amenés à modifier nos pratiques. Et puis évidemment, sur, je dirais, les 10 dernières années, pour la plupart des collèges, un peu plus pour nous, puisqu'on avait commencé plus tôt, l'introduction de l'informatique, qui a complètement bouleversé les sciences physiques, enfin l'enseignement des sciences physiques, à 3 niveaux. Premier niveau, c'est la capacité de mettre à disposition de nos élèves des renseignements extérieurs via Internet. Et à ce titre, d'ailleurs, j'ai été chargé de développer le site académique de sciences physiques, qui maintenant est opérationnel pour les élèves et pour les profs aussi. Et deuxième titre, c'est dans la classe, s'en servir comme, je dirais, aide à la pédagogie par des logiciels d'entraînement ou aide aux travaux pratiques par des logiciels du type tableur. Et la troisième donnée, qui est sans doute la plus importante, c'est qu'on utilise de plus en plus l'ordinateur comme moyen de capture des grandeurs physiques. C'est-à-dire qu'on associe l'ordinateur à des capteurs et à des programmes qui gèrent tout ça. Et l'expérience se fait à l'aide de l'ordinateur. Donc ce sont les élèves qui pilotent l'ordinateur. Évidemment, il ne faut pas perdre de vue qu'il s'agit d'une véritable expérience de sciences physiques ou de chimie. Et que donc, il faut d'abord qu'ils la fassent complètement manuellement, pour comprendre ce qui se passe, et qu'ils comprennent ensuite que l'ordinateur va leur permettre de démultiplier leurs possibilités et de faire des choses qu'ils ne pourraient pas faire seuls. Je vais vous donner 2 exemples. En troisième, à un moment, on fait 1000 mesures en 1/10 de seconde pour montrer un phénomène transitoire. C'est totalement impossible à la main. En cinquième, lorsqu'on fait de la météo, on va capturer des grandeurs météorologiques pendant une semaine. Et quand on propose aux élèves de faire les 3-8, et de se relayer jour et nuit, ou de laisser faire l'ordinateur, le choix est vite fait.
Oui, mais vous êtes bien équipé alors, c'est mon tabusard.
C'est Montabuzard, et bien on a 2 salles de sciences physiques, il y a 1 dizaine d'ordinateurs dans chaque salle.
Conseil général qui a financé la
Un peu
commune.
le conseil général maintenant, après des financements privés, c'est-à-dire des entreprises qui nous ont donné, disons, du détournement pédagogique de matériel dans l'intérêt des élèves.
Ouais,
On a commencé l'informatique à Montabuzard en 1983.
donc vous êtes plus riche au point de vue moyen pédagogique
Largement, oui.
et les élèves, comment ont-ils évolué?
Alors, au niveau des élèves, l'évolution s'est pas faite dans le même sens. Je dirais que quand j'ai commencé à enseigner, bon, il y avait des bons, des moyens, des mauvais, mais il y avait, je dirais, une certaine révérence envers l'école qui n'existe plus aujourd'hui. Du moins plus pour certains élèves. C'est vrai qu'ils ont aujourd'hui plus de sollicitations extérieures, mais ça ne suffit pas à expliquer le phénomène. Moi, je donne comme première explication, je dirais, les 68ards qui ont mal vieilli et qui ont un peu oublié. J'ai fait partie des 68ards et j'en suis fier. Mais il y en a qui ont mal compris ce qui s'était passé et qui ont ensuite élevé leurs enfants dans un laxisme à peu près total. Ce qui évidemment ne peut pas donner de bons résultats. Un enfant ou un adolescent a besoin de se heurter à des murs et de voir qu'il y a des limites et qu'il y a des règles du jeu. Et puis plus récemment, on voit apparaître dans les zones résidentielles comme un gré ce que j'appelle la race des petits boutiquiers. C'est des gens qui généralement ont une culture moyenne, qui ont un emploi tous les deux et qui veulent impérativement avoir la paix avec leur gamin. Et pour avoir la paix, ils l'achètent. Donc ils achètent en payant au gamin tout ce qu'il demande, ça va du super blouson au dernier scooter. Quand le gosse a de mauvaises notes, eh bien il n'hésite pas à téléphoner à la principale du collège pour dire le prof machin est mauvais puisque mon gamin a de mauvaises notes. C'est quand même assez difficile à gérer. Le résultat de tout ça, c'est que les bons élèves continuent à s'en sortir très bien. Les mauvais élèves, ben, continuent à être de mauvais élèves, souvent pour cause de mauvaise gestion des programmes de l'école élémentaire, où on les a fait passer sans leur donner le temps de digérer les choses.
Il n'y a plus de
Il n'y a plus de
redoublement.
redoublement et
Enfin, ça va revenir,
ça me
quoi.
semble une catastrophe. Et puis, ben les élèves moyens, eux, souffrent de ça. Parce qu'on passe plus de temps à faire de l'instruction civique, à jouer les gendarmes, qu'à s'occuper des gosses qui en auraient vraiment besoin. Ça, je le regrette profondément.
Et les parents sont donc beaucoup moins coopérants. Dans le bon sens, non, c'est
Oui, alors
un pourcentage.
il y a toujours des parents qui fonctionnent très bien. Quand un gamin commence à déraper et que les parents jouent le même jeu que les enseignants, le gosse est remis sur la bonne voie très très vite. Malheureusement, il y a un pourcentage non négligeable, pas très important, peut-être de 5-6% de parents qui ne jouent pas le jeu de l'école et qui perturbent beaucoup l'enseignement à cause de ça.
Voilà. Et pourtant, vous n'êtes pas dans un collège dit zone
Ah non,
sensible.
c'est pas une zone sensible, non, c'est une zone. Alors là aussi, la population a changé. Quand je suis arrivé à Ingré, il y avait deux populations. Il y avait la population, je dirais, autochtone, donc des enfants d'agriculteurs. Et là, aucun problème pour le travail. Il y avait une tradition du travail, une tradition familiale du travail qui était bien ancrée. Et puis la deuxième population, c'était des gens qui voulaient habiter loin de la ville pour avoir une certaine qualité de vie et qui s'occupaient très bien de leurs gosses. Mais il y avait une coupure verte entre Orléans et sa banlieue proche, et puis
Vous êtes
Ingré.
arrivé en quelle année, Ingrid, alors?
Moi, ça doit faire 25 ou 26 ans que j'y
Et
suis.
donc c'était des...
C'était.
Et puis encore... Non,
Non,
pardon.
c'était.
C'était lui.
Non. Ouais. C'était. Et bon, ensuite, la ville a rejoint Ingré, et maintenant, c'est une zone résidentielle avec assez peu de familles, je dirais, intellectuellement pauvres. Il y en a quelques-unes, mais pas trop. Un milieu globalement favorisé.
Oui. Les parents qui. Et ce pourcentage d'élèves à qui on laisse tout faire, c'est 10%, 15%,
C'est pas énorme, c'est
c'est pas énorme.
non non
Moins que ça.
c'est entre 5 et 10%, mais ça suffit à
Ah,
perturber.
pardon.
Et pour vous donner un exemple, on est trois profs de sciences physiques au collège. L'an dernier, on a eu tous les trois droit à ces coups de téléphone dont je vous parlais.
Mauvaise note, donc.
Oui, parce qu'on a des mœurs tout à fait sadiques. Par exemple, lorsque on donne un contrôle, deux élèves côte à côte n'ont pas exactement les mêmes données numériques.
Oh.
Ah.
Ah. Et donc il y en a un qui est favorisé par rapport à l'autre,
Non,
parce que
mais
c'est plus facile.
c'est pas plus facile. Mais quand il y en a qui copient, on sait lequel des deux a copié. Donc on n'a pas d'état d'âme à mettre zéro et à pousser une gueulante.
Alors la question suivante, c'était, est-ce que vous voulez bien me décrire une journée de travail? C'est un peu difficile parce que vous avez des horaires.
Ah, si on essaye de faire un peu une moyenne sur la semaine, en gros, c'est 3-4 heures de cours. Bon, évidemment, réparties de
Et
manière.
physique, chimie
Oui, de physique,
uniquement.
chimie. Réparties de manière très différente suivant les jours. Hein. Des jours à 7 heures, des jours à 3 heures. C'est à peu près autant de travail de préparation et de correction. J'enseigne dans une matière où il y a beaucoup de préparation matérielle. Alors, c'est vrai que je suis en fin de carrière, donc je n'ai plus de gros soucis de préparation pédagogique de mes cours, ça va plus vite que lorsque j'ai des jeunes profs. Par contre, la préparation matérielle, elle, demande toujours autant de temps. C'est ensuite, je dirais, la maintenance matérielle. On a beau faire attention, le matériel s'abîme. même si les gosses sont soigneux. C'est aussi le temps de correction. Donc j'estime que ça fait à peu près le même temps que le temps de cours. Et puis, il y a un petit temps administratif, parce qu'on a des paperasses à remplir, des choses à gérer au niveau des commandes, au niveau, etc. En moyenne, c'est de l'ordre d'une demi-heure à trois quarts d'heure par jour, si je fais un peu une moyenne sur la semaine.
Et au niveau formation professionnelle, c'est inclus dans le temps de travail ou c'est en plus
Non, c'est inclus dans le temps de travail
Ouais.
globalement, c'est-à-dire qu'on a actuellement trois équipes de formateurs en sciences physiques dans l'académie, une niveau collège, à laquelle je participe une partie du temps, une niveau lycée, et puis une au niveau des nouvelles technologies, c'est-à-dire essentiellement l'informatique, à laquelle je participe à plein temps. Et on anime des stages, soit des stages de formation, je dirais, typés par rapport à l'un de ces trois groupes, et correspondant à des demandes générales des enseignants, soit lorsqu'il y a de nouveaux programmes, alors là, de manière systématique, des stages sur les nouveaux programmes. Alors, chaque fois qu'il y a de nouveaux programmes, on a des années un peu
Et
plus
ça change
chargées.
souvent les programmes de physique, chimie, informatique,
Tous les 4-5 ans, à peu
tous les
près.
4-5 ans.
Ouais.
Ah oui, quand même. Alors, et est-ce que vous êtes satisfait de vos conditions de travail?
Oui, globalement, oui.
Globalement,
C'est un
oui.
métier que j'ai choisi et
Et conditions de travail matérielles, donc apparemment vous avez.
Matériel, c'est je suis depuis longtemps dans ce collège. Je l'ai. Pendant longtemps, j'étais le seul prof de sciences physiques. C'était un petit collège, bon, à l'époque de Camille, dont vous évoquiez tout à l'heure. Et puis, il a grossi pour atteindre presque
Bah oui,
800
puis
élèves
les
maintenant.
préfabriqués sont partis.
Oui, mais on n'y vivait pas si mal dans les préfabriqués. On a un joli collège. J'ai toujours cherché à l'équiper au maximum au niveau des sciences physiques. J'ai une salle de sciences physiques qui n'est pas tout à fait typique des salles classiques, qui est jolie, qui a une petite partie musée, qui est, je vous l'ai dit tout à l'heure, pleine d'ordinateurs, donc elle est grande, puisqu'on peut y travailler à la fois en TP et en informatique. Non, j'ai des conditions de travail qui sont au-delà de la moyenne.
Bonne condition de
Oui.
travail, donc horaire, ben, c'est quand même.
C'est les horaires d'un certifié de
Voilà,
sciences physiques.
c'est. Et puis, est-ce que ça s'est dégradé?
Non, au niveau des conditions de travail, ça ne s'est pas dégradé. Je dirais qu'au niveau des conditions d'enseignement, c'est beaucoup plus dur aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Je plains mes jeunes collègues. Bon, mais je dirais que les vieux, on a vécu l'évolution petit à petit. On a pu trouver un certain nombre d'astuces pédagogiques pour pallier à ce qui marchait le moins bien dans ces nouveautés. Pour nos jeunes collègues, c'est parfois difficile. Et je pense que là, le système accompagne mal les jeunes enseignants.
Et le travail d'équipe, le travail de.
Le travail d'équipe se fait bien au niveau de la discipline, pas de problème. En interdisciplinaire, non. On a beaucoup de mal, on a lancé beaucoup de pistes de travail interdisciplinaire, bon, y compris au travers de ce qu'on appelle les itinéraires de découverte, qui me semble être une bonne idée. Il reste ce cloisonnement disciplinaire qui me semble être une mauvaise chose dans notre enseignement.
Et qu'est-ce que vous aimeriez voir changer, que vous auriez aimé voir changer
Globalement, par rapport à l'enseignement, j'aimerais
par
qu'on.
rapport à votre travail, enfin le travail
Oui, alors.
côté professionnel, pas.
J'aimerais déjà qu'on pulvérise l'année scolaire, qui me semble être une hérésie, héritée d'un temps où 90% de la population française était dans le monde agricole. Les grandes vacances d'été me semblent absurdes. Le fait qu'un enfant qui est en échec scolaire en début d'année va creuser son trou dans l'échec pendant toute l'année est une imbécilité au plan de la pédagogie. Si on prend par exemple le cas d'un gosse de CP, 6 ans, il a en gros 3 ans ou 4 ans au maximum de recul derrière lui, puisque je ne me souviens pas de ses 2 premières années. S'il en échec un an sur 4 ans de vie perçue, c'est pratiquement un échec à vie, et puis il s'y enferme. Moi, je préconiserais un travail par semestre, donc avec 2 rentrées dans l'année, un mois de vacances à la fin du semestre, et puis des petites vacances au milieu du semestre. Et décalé d'une académie à l'autre, ce qui aurait plein d'avantages, entre autres au niveau de la prise en charge d'au moins un de ces temps de vacances par la collectivité, puisqu'on ne pourrait pas demander aux parents de les prendre en charge tout le temps. Quand j'ai proposé ça pour la première fois, il y a à peu près 25 ans, à un congrès de parents d'élèves, j'ai failli me faire écharper. Quand je l'ai reproposé une dizaine d'années après, ça commençait à porter à réflexion et je me faisais beaucoup moins engueuler. Donc peut-être qu'un jour ça viendra.
On va avoir une question vraiment enseignement, donc je vous la
Oui.
poserai après. Si vous avez bénéficié des 35 heures, c'est autre chose. Que sont devenus vos enfants? Donc vous n'en aviez pas, mais vous en avez eu, garçon, fille.
Deux garçons, et les deux ont continué les études supérieures jusqu'à une maîtrise, et les deux sont aujourd'hui informaticiens, mais
Ah
après des
bon?
parcours très différents.
Mais pas enseignant alors.
Pas enseignant, non.
Pas enseignant. Voilà, ils sont mariés.
L'un des deux est marié et je
Il y a
suis
des...
grand-père depuis un an.
C'est bien. Et alors, une question qui vous avait déjà été posée en 69, que pensez-vous du travail des femmes actuellement? Votre opinion sur le travail des femmes?
Je vois pas de différence.
Et est-ce que vous êtes pour ou contre le travail des femmes?
Ah ben je suis pour, je pense que c'est un moyen d'émancipation. Je me verrais mal rester à la maison toute la journée et je vois pas en quoi je pourrais l'imposer à quelqu'un d'autre.
Voilà, donc, alors ensuite, on passe aux loisirs. Que faites-vous de vos temps libres, de vos soirées, de vos week-ends?
Alors là, la réponse est plus complexe. Bon, d'une part, je suis assez investi depuis toujours dans le monde associatif.
Vous étiez éclaireur.
J'y suis toujours. Je suis
Toujours?
responsable départemental
Ah
des
oui?
Éclaireurs de France. Mais je m'occupe aussi, et c'est connexe, de la JPA. Bon, j'ai eu un long moment où je me suis occupé d'une régie de quartier, dans le quartier où j'habitais avant, qu'on a lancé, puis qu'on a essayé de faire vivre pendant des années.
C'était quel quartier, c'était?
C'est Saint-Marceau.
Saint-Marceau.
Donc j'ai dans mes loisirs quand même pas mal d'occupations associatives et ça me semble quelque chose d'indispensable par rapport à mon équilibre. Je pense qu'on ne peut pas vivre tout seul. Bon, bien sûr, il y a... Alors dans les loisirs plus personnels, il y a le bricolage parce que je suis toujours un fanatique du bricolage. J'ai souvent tourné vers le métier. Mais il y a des connexions quelquefois pour le plaisir. Je fais de la photo. Alors j'ai fait beaucoup de photos numériques et de photos argentiques. Maintenant, je passe au numérique depuis quelques temps. Bon, bien sûr, c'est aussi la lecture. Avec là aussi deux aspects. Il y a la lecture, je dirais, qui a une incidence professionnelle. Avant que vous arriviez, j'étais en train de lire le dernier numéro de la recherche, donc de revues scientifiques. Mais c'est aussi pour le plaisir, de temps en temps, un roman. Voir un vieux bouquin, c'est aussi la télé, essentiellement au niveau des films, et
Uniquement les films
pas uniquement,
télé.
mais c'est souvent des films, et puis des émissions, lorsque des émissions à thème m'intéressent, je pense à un certain nombre d'émissions d'Arte qui sont intéressantes et qu'on essaye de privilégier. C'est aussi, quand on le peut, ma femme n'est pas enseignante, de partir quelques jours, d'aller se promener, d'aller découvrir un petit coin de.
Alors, est-ce que vous pratiquez une activité physique?
À part taper sur mes élèves,
Et
non.
faire du jardin?
Oui, un peu de jardin. Non, de la marche, un peu en été. Non, c'est vrai, je suis pas
Voilà.
sportif.
Et pour aller travailler et pour vos loisirs, est-ce que vous déplacez en voiture, pas de transport en commun?
Transport en commun chaque fois qu'on peut. Il se trouve que pour aller travailler d'ici, le transport en commun sont vraiment pas pratiques.
Alors que vous avez la route directe là.
Et j'y suis en quelques minutes en
Hein?
voiture. Donc là, on a privilégié la voiture. Je dirais qu'on s'est installé ici pour cette raison-là. Ma femme travaille d'un côté de l'agglomération et moi de l'autre.
Vous avez deux voitures alors?
On a deux voitures. Quand on peut, on marche. Quand on va en ville, alors au centre-ville, autant que possible, on prend le tram.
Il aboutit à
Il y a, non, mais il y a, pas aux Aubrais. On peut le prendre aux Aubrais, mais il y a un petit parking relais à 1 km d'ici. C'est le beaucoup plus simple. On y laisse la voiture, on va en tram, on ne s'embête pas dans le centre-ville.
Et quand vous partez en week-end, vous prenez la voiture.
C'est souvent la voiture, c'est quelquefois le train. Si on va à Paris, c'est le train, parce que la voiture n'a pas d'intérêt. Quand c'est chez les enfants ou en pleine nature, c'est évidemment la voiture.
Alors, que ferez-vous pendant les prochaines vacances?
C'est pas encore tout à fait décidé. Ce sera du camping, quelque part dans la moitié sud de la France.
Moitié sud montagne ou mer?
Alors on est. Moi, je suis plutôt moitié sud montagne. Je suis un amoureux des Alpes du Sud. Ça fait plusieurs années que.
Non, du côté de Gap, du côté de... Non?
Tout là où tu bailles. Barcelonnette est au-dessus, Foyouz, etc. C'est des coins où je me sens chez moi.
Donc là, pendant les vacances, vous faites de la randonnée quand même, si
Oui,
vous
là,
allez en
ah oui,
montagne.
là, on se promène, mais c'est pas de la randonnée sportive, dure. Bon, j'en ai fait autrefois, mais là, c'est de la randonnée, c'est des grandes balades de quelques heures, 5-6 heures, mais c'est pas, on peut pas appeler ça de la grande randonnée.
Sur chemin, moyenne randonnée.
Oui, c'est ça.
Alors, est-ce que vous avez écouté la radio?
Oui, quand je peux, j'écoute la radio, mais c'est souvent en voiture ou ici quelquefois lorsque je veux avoir. Alors, il y a deux types d'écoute. C'est l'écoute musicale. Quand je suis en train de travailler, souvent je mets France Musique en fond sonore. Et puis c'est la radio information à certaines heures de la journée parce que je veux me tenir au courant de ce qui se
Donc
passe dans le
France
monde.
Info ou France
Non,
Inter
plutôt Europe et Inter. Europe et Inter.
les stations régionales, non,
Non. Non, j'avoue que les chiens écrasés locaux m'intéressent assez peu.
non. Alors la télévision, donc vous m'avez dit les films et certaines émissions sur Arte.
Oui, Arte ou quelquefois la 3 des émissions à thème.
Ah oui. Combien vous pouvez à peu près dire le nombre d'heures par jour par
Une radio, c'est de l'ordre du quart d'heure, la télé, 1 heure et demie.
Bonjour. Et est-ce que vous allez au cinéma? Bonjour.
Bonjour.
J'arrête.
Oui, si vous voulez un instant.
Attendez, c'est top. Voilà. Donc, on en était à la télévision. Est-ce que vous allez au cinéma? Vous y
Très
alliez
rarement,
beaucoup.
très très rarement.
Et pour voir quelles sortes de films.
Plutôt des films. Alors, on va voir souvent des films qui viennent de sortir et qu'on nous a conseillés ou dont
Par
le thème nous
exemple.
plaît. C'est rarement les films à la mode. Sauf des choses très particulières, je pense au peuple migrateur ou des choses comme ça. C'est plutôt notre genre de film. C'est à peu près les seules occasions où on fait l'effort d'aller au cinéma.
Voilà, et la photographie, donc vous continuez vous m'avez dit,
Ah oui, mais je suis passé au
au
numérique,
numérique, avec
bien sûr.
l'ordinateur. Est-ce que vous faites de la peinture?
Non. Non, c'est peut-être d'ailleurs pour ça que je fais de la photo. Je dessine très mal et je peins encore plus mal.
Voilà, est-ce que vous aimez regarder des tableaux, vos peintres préférés?
Oui, j'aime bien regarder les tableaux. Encore que ça dépend beaucoup de la manière de les mettre en valeur dans un musée. J'ai horreur des musées où on a peur d'avoir 1 cm² vide sur le mur. J'aime bien quand l'exposition est plus aérée, quand elle permet de mieux comprendre l'œuvre. Je dirais qu'il y a des tableaux qui me parlent directement. C'est pas toujours le cas, par exemple, d'une partie de la peinture classique où là j'ai besoin d'explications.
La peinture classique.
J'ai eu la chance de pouvoir visiter quelques grands musées avec des professionnels de la chose et on a une autre vision des œuvres.
Est-ce que vous aimez la musique? Vous écoutez France Musique, donc
Musique classique, jazz, et puis je dirais la musique folklorique. Je supporte assez mal la musique moderne.
Et est-ce que vous allez au concert
Ça arrive, mais
ailleurs?
c'est très rare.
Très rare. Au théâtre?
Très très rarement. Le problème.
Alors, est-ce que vous lisez régulièrement, donc vous m'avez dit, des romans ou des revues
Alors,
scientifiques?
revue scientifique, revue d'information, générale du type L'Express, hebdomadaire, et puis des livres type roman.
Alors ensuite, que conseillez-vous de faire à Orléans à quelqu'un qui vient ici?
Déjà de prendre patience pour arriver à se faire accepter par
Encore
son
maintenant.
environnement, c'est encore vrai. Et puis après, bon, c'est une grande ville, il y a quand même beaucoup de choses que l'on peut faire suivant les goûts de chacun. Autre avantage, on est à 1 heure de train de Paris. Donc si on veut aller se faire une virée au Louvre ou dans un autre musée parisien, ça ne pose pas de gros problèmes. Deuxième chose, l'environnement, bon, la Beauce, c'est pas beau, mais tout l'environnement du Val de Loire est superbe,
Et la Sologne.
et la Sologne aussi. En plus, maintenant, on commence à pouvoir s'y promener correctement, ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans. Il y avait beaucoup de barbelés, il y en a moins aujourd'hui.
Et comment vous qualifiez-vous Orléans?
C'est une ville universitaire qui a mal digéré son université, à l'inverse de Tours. qui commence.
Croyez que l'université actuellement est...
Il y a toujours un cloisonnement. La ville n'a toujours pas digéré son université. Les étudiants sont rarement dans la ville, alors qu'à Tours, ils sont dans les rues
Ah,
sans
ça...
problème. Mais ça tient à l'histoire de Tours et à l'histoire d'Orléans, avec cette idée de campus mal fait. C'est une ville qui a beaucoup évolué depuis qu'elle est capitale régionale. Moi, j'y suis arrivé, puisque mon père dirigeait un service régional qui était basé à Bourges. Et lorsqu'il y a eu les régions de programme, tout a basculé sur Orléans. Donc j'ai vu l'évolution de cette ville depuis ce moment-là. C'est une ville moderne, c'est une ville qui était très dynamique sous les mandats précédents, qui l'est moins aujourd'hui parce qu'on a un maire qui a été élu par
À
hasard,
défaut.
sans y croire, et qui n'avait aucun projet, à part augmenter son
Merci.
salaire, et qui depuis 3 ans avec son équipe passe son temps à se regarder le nombril, ce qui n'est pas obligatoirement une bonne idée pour une capitale régionale. Bon, c'est un problème transitoire qui, à mon avis, sera résolu relativement vite. C'est une ville équilibrée où, globalement, il fait assez bon vivre. Et là, je parle, disons,
Après
d'Orléans et
s'être
la banlieue.
fait accepter.
Pardon?
Après s'être fait accepter.
Après s'être fait accepter, c'est toujours très dur de se faire accepter par l'environnement. Les contacts avec le voisin sont quelque chose d'assez complexe. Nous, on vit ici depuis 2 ans et on a encore très peu de contacts avec les voisins. On les voit, on se dit bonjour, mais ça s'arrête là. Il faut très longtemps pour que les choses se fassent.
Donc pour loisir, on reviendra un peu au loisir dans la langue culture parce que ça se recoupe automatiquement. Alors l'enseignement, que pensez-vous de l'enseignement aujourd'hui? Ça...
Je crois que j'en ai déjà beaucoup
Vous en
parlé tout
avez
à
beaucoup
l'heure.
parlé, a-t-il beaucoup changé en quoi,
Oui.
effectivement, là?
Moi, je crois que si on voulait donner une conclusion, j'ai l'impression que le pays ne croit plus à son école et ne se donne pas les moyens, qui ne sont pas obligatoirement des moyens financiers. Il y a aussi des moyens, je dirais, au niveau de la morale, au niveau d'un certain nombre de choses comme ça, au niveau d'un certain nombre de points de repère. J'ai peur que le pays ne croit plus assez à son école et j'ai peur qu'on soit en train d'augmenter l'hétérogénéité au niveau de la population. Entre ceux qui ont les moyens, et là encore je ne parle pas des moyens financiers, mais plus des moyens intellectuels pour faire le travail que la société ne fait pas globalement, et puis ceux qui sont un peu laissés pour compte.
Et le problème des lycéens actuellement, qu'est-ce que vous en pensez
Quel problème?
avec la nouvelle loi
Je dirais
de
que la nouvelle
l'éducation
loi...
nationale
La nouvelle loi ne me choque pas plus que ça. Bon, après, si on
Le
va chercher dans
bac
le...
avec contrôle continu, une
Oui, alors
partie
si on va
par...
chercher dans le détail, il y a sans doute des choses à modifier, mais si on prend le cas du contrôle continu au bac, ça ne me choque pas du tout. Le bac à la française est une monstruosité si on compare aux autres pays européens. Ça coûte extrêmement cher, c'est d'une extrême lourdeur. Je ne suis pas sûr que ce soit très juste. Je pense qu'une bonne dose de contrôle continu est beaucoup plus saine. Alors c'est vrai qu'il faut mettre en place des garde-fous, mais s'ils sont correctement mis en place, les dérives seront très faibles et sans doute inférieures à ce qu'on constate aujourd'hui.
Et le niveau des élèves a beaucoup changé ou pas?
Alors ça, c'est l'éternelle question. Je crois qu'il faut surtout pas y donner une réponse ni positive ni négative, parce que les deux seraient fausses. Le niveau a changé. Ça, c'est tout à fait vrai. Je ne dirais pas qu'il a changé en bien ou en mal, il a changé, point. Ils n'ont pas la même culture, ils n'ont pas les mêmes connaissances que nous on avait à leur âge. Ils en ont que nous n'avions pas. Bon, alors c'est vrai que au niveau d'un certain nombre de références culturelles qui étaient plus présentes, disons pour les gens de ma génération, elles sont aujourd'hui absentes et beaucoup le regrettent. Moi le premier, j'aimerais bien que nos jeunes lycéens aient un petit peu plus une vision de l'histoire de leur pays, etc., ce qu'ils n'ont pas obligatoirement, qu'ils aient une vision scientifique plus large que celle qu'ils ont actuellement, où ils sont super bons pour manipuler des formules, mais pas obligatoirement bons si on leur donne un tournevis. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas tout à fait la relation entre la formule et son usage mathématique, et puis la réalité physique. Mais globalement, je défie tout individu de plus de 50 ans de repasser un bac scientifique aujourd'hui.
Et à votre avis, est-ce que l'orthographe et la question de la langue, si elles ont changé, sont enseignées aussi bien ou moins bien que de votre temps.
Alors, je ne sais pas s'ils sont enseignés aussi bien ou moins bien, en tout cas, elles sont moins bien reçues. C'est vrai que l'orthographe d'aujourd'hui, y compris chez de jeunes diplômés...
Vous le sentez chez vos élèves?
Je le sens non seulement chez mes élèves, mais aussi bien chez mes fils, qui, je vous l'ai dit tout à l'heure, ont tous les deux une culture universitaire. Je le sens aussi chez de jeunes collègues quand j'ai, disons, jeté un coup d'œil sur des rapports, ou ça m'est arrivé récemment, des travaux de jeunes ingénieurs. L'orthographe est souvent délirante et la grammaire approximative. Est-ce un bien, est-ce un mal? Quand on relit des textes du XVIIIe siècle, la grammaire et l'orthographe étaient différentes, ça a évolué, c'est encore, la langue évolue, donc ça prouve qu'elle est vivante. Ça ne veut pas dire qu'il faut en faire n'importe quoi.
Et est-ce que vous seriez favorable à une réforme de l'orthographe? On en parle tout le temps. Mais...
Ah bon, on peut en parler. Je crois que la réforme de l'orthographe, elle se fait, et qu'un jour ou l'autre, il faudra bien... acter la chose, mais elle se sera faite sans que des gens très, je dirais, diplômés en la chose s'y soient penchés. C'est pas eux qui feront la réforme, c'est le peuple qui la fera.
Mais est-ce qu'elle sera acceptée par l'Académie
et... Je crois que l'Académie n'aura pas le choix.
Et alors, selon vous, est-ce que les gens parlent de mieux en mieux ou moins bien?
Là encore, c'est typiquement une fausse question. On parle de mieux en mieux ou moins bien de quoi? Si on prend, je dirais, pour la moyenne de la population, l'expression dans le domaine agricole, c'est certainement beaucoup moins bon qu'il y a un siècle ou deux, et pour cause. Sur d'autres domaines, les jeunes d'aujourd'hui ont une capacité de communication qui est certainement sans aucun rapport avec celle que nous on avait, puisque je parle là de domaines dans lesquels ils vivent depuis leur plus tendre enfance. On parlait tout à l'heure d'informatique, mes enfants sont nés avec des ordinateurs à la maison. Moi j'ai acquis l'ordinateur au niveau de sa gestion, alors que j'étais déjà adulte. Bon, dans tout un tas de domaines, au niveau des moyens de communication, etc., ils ont développé une culture qui pourrait être une culture vécue depuis leur plus tendre enfance. Et ils ont donc là-dessus, entre autres, une manière de s'exprimer, un vocabulaire, une perception des phénomènes qui est tout à fait fine. Bon, sur d'autres phénomènes, ils ont perdu, mais c'est un problème de vaste communicant.
Quels autres phénomènes?
Je l'évoquais tout à l'heure pour les lycéens, au niveau de la réalité physique des choses, au niveau du monde qui nous entoure, j'ai un peu peur par rapport aux jeunes adultes d'aujourd'hui, de leur manque de compréhension du monde qui nous entoure.
Et que pensez-vous du français qu'on entend à la télévision, à la radio?
Ça dépend qui le parle. Il y a des gens qui le parlent très bien. On prend les animateurs d'un certain nombre d'émissions vedettes d'aujourd'hui, ils parlent pour leur public, avec un vocabulaire qui est excessivement restreint, une syntaxe approximative. Et ça n'est certainement pas des exemples à donner.
Par exemple, vous pensez à quelle émission
J'ai regardé un ou deux épisodes de Star Academy, par exemple. C'était d'une pauvreté linguistique effroyable. Et je ne parle pas du reste. Si on prend des émissions d'Arte, le niveau culturel est un peu différent et le vocabulaire aussi.
Et au niveau des informations, par exemple vous avez remarqué une différence?
Non, au niveau des bulletins d'information, j'estime qu'ils sont dans l'ensemble assez bien faits et dits dans une langue qui, sans être pauvre, a une certaine richesse, mais est compréhensible par la majorité des gens.
Et est-ce qu'il y a des façons de parler qui vous agacent à la radio, à la télévision?
Le paupérisme culturel, oui. Quand quelqu'un parle avec 300 mots de vocabulaire en s'adressant à des millions de gens, j'estime que c'est de l'escroquerie.
Et alors, que pensez-vous du français parlé par les jeunes? Vous m'avez un peu répondu, mais...
Là encore, il faut différencier par les jeunes entre eux.
Par les jeunes entre eux, alors, par les jeunes de certains quartiers ou d'autres.
Oui. Par les jeunes entre eux, sur un certain nombre de cas, on peut estimer qu'ils ont développé des... pas parler de langue, mais des manières de s'exprimer et de communiquer tribale. Bon, ça a toujours existé, le verlan, c'est vieux, etc. C'est un phénomène qui est un peu normal dans l'adolescence et qui, ne, à mon avis, ne prête pas conséquence s'il est évacué par la suite. S'il y a un langage qui est fermé, de manière à ne pas être compris par les autres, vous évoquez tout à l'heure certains quartiers, et là on peut voir ce phénomène, là ça me gêne. Surtout si au lieu de s'adresser, de parler entre eux, ils s'adressent à d'autres en faisant en sorte qu'on ne les comprenne pas ou qu'on les comprenne mal.
Et ne pensez-vous pas qu'il ne possède que cette langue-là?
Dans certains cas peut-être, mais dans beaucoup de cas non.
Il possède les deux moyens de
Moi,
communication,
je le
les
vois avec
deux.
mes élèves qui quelquefois ont tendance à vouloir s'exprimer dans cette langue-là. Quand on leur dit pouce, si on prenait ça en français, ils sont capables de le faire.
Et que pensez-vous de l'anglais comme langue qu'il faut connaître au niveau international, au niveau européen, au
Bon,
niveau...
là aussi, je crois que c'est un fait. Ceci dit, ce qui me gêne un peu, c'est qu'on parle de l'anglais. Lorsqu'on l'utilise, alors c'est vrai que c'est une langue qui est issue de l'anglais, ou plutôt d'un mélange de l'anglais et de l'américain, mais cette langue internationale, qui est très pratique, n'a plus grand-chose à voir avec l'anglais littéraire qu'on a pu apprendre à l'école. Il est plus proche de l'américain d'aujourd'hui. C'est un fait, on le constate dans le monde entier ou à peu près. Il m'est arrivé de me promener dans un certain nombre de pays dont je ne parle pas la langue, et en m'exprimant en anglais, je n'avais aucun problème. Alors, défendre le français, oui, le défendre à bon escient. Vouloir systématiquement inventer des mots nouveaux en français pour remplacer des mots totalement internationaux. Bon, l'exemple le plus caricatural, c'est en informatique le software et hardware, qui sont deux mots qui sont passés dans toutes les langues du monde entier, et nos brillants académiciens ont inventé deux mots, quincaille et montagne, qui devaient les remplacer. Ça a été un flop extraordinaire. Bon, il faudrait arrêter ce genre de bêtises. Il faut que l'on maîtrise notre langue, qu'on essaye de montrer tout ce qu'elle peut apporter, mais qu'à côté, on ait une langue véhiculaire issue de l'anglais. Tant pis pour les Anglais.
Et mail courriel, ça vous gêne pas?
Moi, je préfère dire courriel, mais un mail, pourquoi pas, je l'écris à la française.
Le accent grave. Hello.
Je disais tant pis pour les Anglais, parce que lorsqu'on va dans plein de pays, les gens parlent leur langue, et puis une ou deux autres, dont l'anglais. Lorsqu'on va en Angleterre, les gens parlent anglais, point final. C'est donc un appauvrissement. Le fait que l'anglais soit devenu une langue internationale, c'est un appauvrissement pour le monde anglophone.
Voilà. Et alors, quel journal lisez-vous habituellement, si vous en lisez
Alors, journaux quotidiens, néant. Comme pour les radios locales, j'avoue que les chiens écrasés locaux m'intéressent peu. Journal d'information générale, je lis l'Express, que je trouve très bien fait au plan rédactionnel, même si je ne suis pas toujours d'accord avec leur prise de position politique.
Il me semble que vous lisiez le Canard enchaîné en même temps.
Oui, je lisais Le Canard, je le lis moins, mais de temps en temps, je me fais plaisir.
Et quand vous lisez, alors dans l'Express, qu'est-ce que vous lisez en premier? Comme rubrique, comme vous feuilletez, ou vous
Alors,
prenez la première page jusqu'à la dernière?
comme à peu près tous les journaux, quand j'ai le temps, je commence par feuilleter, et puis s'il y a un article qui m'attire particulièrement, je commence par celui-là, et je lis à peu près systématiquement tout.
Vous lisez tout. Et est-ce que vous faites les mots croisés?
Non. Non, ça ne m'intéresse pas.
Ni dans l'Express,
Ah non, je ne
d'ailleurs.
suis pas attiré par les mots croisés.
Alors, lisez-vous des magazines? Donc, il y a l'Express, il y a les magazines
Il y a
spécialisés.
les magazines scientifiques, Sciences et Avenir et La Recherche, et puis les revues professionnelles et syndicales.
Sciences et Avenir, pas Sciences et Vie.
Non, pas Sciences et Vie. Je préfère Sciences et Avenir, que je trouve mieux fait. Professionnellement, je conseille à mes élèves Sciences et Vie Junior, qui est très bien fait pour les petits. Et puis dès la troisième, pour les bons élèves, je leur dis qu'il faut passer à Sciences et Avenir. En faisant l'impasse sur Sciences et Vie, que je n'aime pas bien au niveau de sa manière rédactionnelle, qui fait un peu trop de sensationnalisme par moment et pas assez de science. Et puis pour les lycéens, à partir de la terminale, je leur conseille de la recherche où il y a vraiment des choses intéressantes.
Et quand avez-vous l'occasion d'écrire dans la journée? Alors là, l'occasion d'écrire dans la journée.
Alors écrire, ça dépend de ce que vous entendez écrire. Bon, écrire en tant que prof, il m'arrive d'écrire, ça c'est obligatoire, à plein de petits moments de la journée. C'est des notes brèves, c'est des choses comme ça sur des papiers. Écrire de manière plus ample. Ça se fait maintenant rarement avec un papier, mais je travaille sur ordinateur. C'est quand, alors soit quand j'ai du courrier personnel à faire, c'est plutôt le soir. Et puis, c'est lorsque je dois préparer un article, par exemple, soit un document pour un stage, soit un article à publier, soit sur Internet, soit dans une revue professionnelle. Ça, c'est des choses qui mûrissent lentement, qui vont se faire essentiellement en soirée, et puis qui vont demander une gestation longue, hein, de 15 jours, 3 semaines.
Et au point de vue correspondance, est-ce que c'est vous ou votre femme?
Les deux.
Les deux.
Les deux, et on se partage un peu la chose. D'abord parce qu'on ne correspond pas obligatoirement avec les mêmes. On a chacun nos interlocuteurs. Et puis pour les interlocuteurs communs, qui sont nombreux, toute la famille, bon, c'est l'un ou l'autre, ou les deux ensemble. Quelquefois, il arrive qu'on s'y mette ensemble. C'est beaucoup par courriel, puisque tout pratiquement toute la famille est informatisée. Mais c'est aussi pour le plaisir, des cartes postales, des choses comme ça.
Et les papiers administratifs.
Les papiers administratifs, même chose, c'est les deux. Ça dépend encore de ce qu'il y a à faire.
Oui, chacun fait sa feuille de sécu,
Oui,
chacun.
alors nous, tout ce qui est nos
Hein?
feuilles de sécu, on fait ça, chacun les
Et
fait,
les
bien sûr.
déclarations d'impôts.
Déclaration d'impôt, on l'a fait
Vous
ensemble.
avez essayé Internet
Bien
cette année?
sûr, oui. Ça
Oui.
marche.
Ah ben
C'est la deuxième fois qu'on le fait sur Internet.
ouais. Et est-ce que vous utilisez un agenda?
Oui.
Oui. Et vous y notez quoi?
Alors, j'utilise un agenda et un agenda.
Électronique
Non, non,
ou
non,
tout court?
papier. Papier, je trouve que c'est beaucoup plus efficace que les gadgets électroniques qui m'ont pas vraiment convaincu par rapport à la rapidité d'exécution. J'y note ben, les rendez-vous. Vous y étiez noté pour aujourd'hui, par exemple. C'est essentiellement ça, c'est les stages à venir, c'est un certain nombre de réunions. Je vous ai dit que j'étais assez impliqué dans le monde associatif, ce qui sous-entend plein de réunions. Donc, si on ne tient pas un agenda, on n'y arrive pas.
Et bon, ben, la question, est-ce que vous utilisez un ordinateur? Apparemment, oui.
Oui, ça, dis-moi, oui.
Et pour contacter une personne qui habite dans un rayon, admettons 5 km autour de chez vous, comment faites-vous?
Tous les cas de figure sont possibles. Il m'arrive de communiquer par mail, lorsqu'on a entre autres des fichiers à s'envoyer. J'ai des copains au plan associatif qui sont tout près d'ici. Il est bien plus simple de s'envoyer un fichier par mail que d'aller le porter sur une disquette. Mais c'est aussi, chaque fois que je peux, aller les voir et puis discuter parce
Mais
que
vous y allez à pied, vous y allez en vélo, en voiture,
ça sera voiture ou transport en commun. À pied, non, parce que j'en ai peu dans un environnement qui me permettrait d'y aller à pied rapidement. J'ai quand même un emploi du temps qui est souvent assez serré. J'utilise beaucoup les moyens de communication modernes, téléphone, internet, voire fax. J'estime que ça ne remplace pas le contact humain et que. Entre autres avec les gens avec qui je communique beaucoup avec ces moyens électroniques, il faut de temps en temps aller les voir.
Et alors, est-ce que vous téléphonez souvent?
Pas mal, oui.
Pas mal. Et est-ce que vous avez un portable?
Oui, on a tous des portables ici en plus, oui.
Tous.
Oui.
Et vous en faites quel usage?
Essentiellement, bon, lorsqu'on n'est pas à la maison, c'est de pouvoir donner un coup de fil rapide, de dire j'arriverai à telle heure. C'est aussi de contacter quelqu'un rapidement lorsque le besoin s'en fait sentir. C'est quelquefois aussi, même sur le plan professionnel, être capable de contacter un parent d'élève dans la journée au lycée, au collège, sans passer par la lourdeur administrative où il faut aller dans la salle des profs ou passer une communication au milieu du brouhaha de 20 personnes, c'est pas obligatoirement agréable pour celui qui est à l'autre bout. Donc on s'enferme dans une petite salle, on prend notre portable, etc. Je dirais que c'est un usage à la fois de confort et d'efficacité.
Et est-ce que vous utilisez le SMS sur le portable?
Très peu.
Très peu.
Ça, c'est
Et
plutôt
qu'est-ce
une
que vous
erreur.
pensez de cette écriture SMS?
Elle m'horripile. Quand il m'arrive d'envoyer un SMS, il est envoyé en français, même si c'est un peu plus long.
Et quand vous recevez des SMS, langage SMS, vous avez une difficulté à les comprendre à...
Ah, quelquefois, je dois le relire deux fois, oui. À haute voix.
Alors, et après, c'est au point de vue culinaire, on vous avait déjà posé cette question, c'était un Anglais qui vous la posait, maintenant c'est moi, est-ce que vous pouvez me donner la recette de l'omelette?
Oui, sans problème.
Sans problème, alors allez-y.
Alors, vous voulez une omelette simple?
Ah, tout ce que vous me proposez,
Bon,
Irassu.
alors l'omelette simple, vous prenez des œufs, disons en gros 2 œufs par personne, et vous les cassez, tant qu'à faire un par un, et dans un bol pour éviter les gags, s'il y en a un qui est mauvais ou s'il y a une coquille d'œuf qui tombe. Vous les mettez dans une jatte, vous les battez avec un petit peu de sel et un peu de poivre. Et ça va faire l'omelette la plus simple. Il est astucieux d'y rajouter un petit peu d'eau avant de la battre, ça sera un peu plus moelleux. Si vous voulez l'améliorer, vous pouvez lui rajouter des fines herbes, par exemple. Ou bien vous pouvez faire cuire des champignons auparavant dans la poêle et puis casser votre omelette dessus, ou des pommes de terre, ou d'autres choses. Il doit y avoir au moins un millier de variantes de l'omelette.
Voilà, et une fois que vous avez battu vos œufs.
Donc on va, alors avec éventuellement les variantes que je viens de donner, on va mettre un peu de matière grasse, autant que possible, pas du beurre dans la poêle parce que le beurre supporte mal les hautes températures. Lorsque cette matière grasse est chaude, on y verse le mélange d'œufs et éventuellement d'autres choses. On remue doucement avec une palette non agressive pour la poêle, jusqu'à ce qu'elle tienne là dans la consistance que l'on veut, suivant le type d'omelette. Et
Et vous prenez quelle consistance pour l'omelette?
ça va dépendre. Si c'est une omelette aux champignons ou aux fines herbes, elle sera plutôt encore un peu fluide. Si c'est une omelette aux pommes de terre, je la ferai plutôt à l'espagnole, un petit peu dense.
Et alors là, une question vraiment qui n'a aucun rapport avec ce qui avait été fait en 68, en 69. Me racontez le petit chaperon rouge.
Grand Dieu. Je vous ai dit tout à l'heure que je suis grand-père depuis pas longtemps. Elle n'a pas encore l'âge que je lui raconte le petit chaperon rouge. Pour autant que je m'en rappelle, c'est une petite fille qui part voir sa grand-mère, qui habite au fond des bois et qui lui emmène un certain nombre de choses dans un joli panier. Laquelle petite fille rencontre un vilain et grand méchant loup qui essaye de la croquer. Et comme la petite fille est astucieuse, eh bien, elle finit par ridiculiser le loup.
Voilà,
Je m'arrêterai là.
c'est une version raccourcie. Mais je vous remercie, c'est tout ce que j'avais à vous poser comme question. J'arrête mes petits machins là. Voilà.